I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle pastille quotidienne consacrée à la draft NFL 2022 et aux différents besoins des franchises. 32 jours, 32 pastilles pour s'intéresser donc aux priorités, ou dernières priorités en tout cas de cette intersaison pour les différentes franchises NFL post-free agency, avec aujourd'hui à l'honneur les Detroit Lions. Deuxième choix de la draft avec beaucoup de besoins. Est-ce qu'on va partir sur un quarterback, sur un défenseur du côté de Détroit? C'est notamment les principales questions qu'on va se poser en compagnie de Victor Roulier. Salut Victor.
Et bonjour à tous.
Alors du côté de Détroit, avec une saison très très compliquée en 2021, on a longtemps pensé que la franchise coachée par Dan Campbell serait numéro 1 de la draft. Ce n'est pas le cas, ils sont donc numéro 2. On avait un petit peu de mieux. Pourtant, il y a toujours un chantier assez palpable du côté du Michigan.
Oui. Alors là, encore un peu comme les Jaguars, je vais d'abord dire que l'attaque, ça va. Parce que mine de rien, il y a eu le recrutement de Shark, alors OK que pour une saison, mais quand même. Il y a eu le recrutement de Reynolds. Il y a une ligne offensive qui, quand elle est en bonne santé, est redoutable. Il y a un Swift en coureur qui est tout à fait convenable. Et il y a Jared Goff en quarterback. Ça, c'est vrai que c'est la question d'attaque. Est-ce qu'il faut un quarterback? Après, quand on regarde la défense, ça fait un peu plus peur, si je peux me permettre. Il y a du kilo sur la ligne défensive, mais alors encore faut-il l'utiliser. Je trouve que des edges, on a Okwara, on a Harris, donc on va dire que ça va.
On a même deux Okwara.
Oui, on a même... Enfin, il y en a... Sans vouloir faire injure, il y a que Roméo qui a mes faveurs.
Après, on attend de voir ce que va proposer Julian, hein, qui était c'est Julian qui était drafté en dernier, on est d'accord,
hein? Oui.
Oui, c'est ça. Pardon, je te laisse reprendre ton développement.
Non, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions en defensive tackle, Brokers, Onu Uzurike, même si Onu Uzurike, bon, ça va être un sophomore, donc il attend de se développer. Après, globalement, linebacker, c'est très vide. Safety, c'est plutôt inquiétant. Cornerback, on attend toujours que Okuda atteigne le potentiel qu'on avait vu en université. Globalement, il y a à peu près tout à construire et j'ai l'impression que ça peut partir dans toutes les directions. Si jamais ça ne part pas dans la direction d'un quarterback, ça peut partir à peu près dans toutes les directions en défense.
Tout à fait. Okuda, 10 matchs en deux saisons. Il faudra déjà qu'ils finissent des campagnes. Un seul match en 2021, mais je te rejoins. C'est vrai que pour l'instant, son statut de troisième choix de la draft 2020 a dû beaucoup de mal à être confirmé pour l'instant. Mais du coup, on va se lancer. C'est vrai que je n'ai pas précisé les principales signatures, mais tu avais commencé à en parler, notamment Didier Shark, en effet, sur le poste de receveur, pour éventuellement épauler Amon-Ra St. Brown sur une position qui a été bien tristounette l'année dernière. Malheureusement, on l'avait un petit peu vu venir pour les Lions. Après, pour le reste, en effet, on a l'impression qu'on a un petit peu conservé les éléments de la saison dernière. J'ai plus tous les noms en tête. Je crois qu'il y avait du Tracy Walker qui avait prolongé. On a également Alex Anzalone qui est revenu après un exercice qui n'était pas terrible en tant que linebacker. Donc, on a vraiment gardé beaucoup de pions de la saison passée, en attendant potentiellement de voir ce que pouvait donner cette draft. Du côté des Lions, on a donc deux premiers tours, un deuxième. On va s'intéresser prioritairement au choix du jeudi soir pour les Lions. Et puis, un petit peu plus tard, ils auront deux choix, du troisième tour, un choix du cinquième, deux choix du sixième et un choix du septième. Ça va nous intéresser notamment entre le cinquième et le septième lorsqu'on donnera notre sleeper tout à l'heure. On commence donc avec le premier choix des Lions qui sera le deuxième en l'occurrence. Et ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. On avait parlé notamment hier du fait que Aidan Hutchinson était un besoin important pour les Jaguars parce que forcément, des pass rushers, c'est compliqué de passer à côté, surtout quand ça reste un besoin assez prégnant. Alors certes, en effet, ils ont un Charles Harris, par exemple, qui fait partie des re-signatures, qui a été une belle surprise l'année dernière. Certes, on attend de voir éventuellement si les Okwara peuvent continuer de se développer, notamment Julian qui a été drafté très récemment. Après, voilà, je pense qu'il faut, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur la ligne défensive et justement ce côté à vouloir mettre de la viande, du physique, du all gap, si je peux parler ainsi, apporter aussi un petit peu de vitesse à côté de ça. Je pense que si on arrive à avoir cette espèce de mix sur le front seven, ça peut être quelque chose de très intéressant pour les Lions, surtout qu'encore une fois, on est dans une division où on va jouer Aaron Rodgers, où on va jouer Kirk Cousins, qui reste quand même un quarterback plus que décent, en tout cas dans une attaque qui risque d'être un peu plus explosive l'année prochaine. Et on attend encore de voir ce que peut donner Justin Fields. Donc, ce ne sera jamais une mauvaise chose de considérer la défense. On était plutôt parti sur Aidan Hutchinson hier. Donc, très logiquement, je pars plutôt sur Kayvon Thibodeau, dont on avait parlé un petit peu, mais qui en effet peut faire beaucoup de choses, mais surtout qui est capable d'être hyper agressif au contact et d'être un phénomène athlétique absolument délirant. Et je pense que tu seras globalement d'accord avec moi sur cette sélection du pass rusher d'Oregon.
Oui. C'est la sélection la plus prudente. C'est une valeur qui est tout à fait en adéquation avec le deuxième choix. Si je devais donner une alternative, je dirais que pour moi, on a dans cette draft un joueur générationnel et que tu le sais, Grégory, on ne passe pas sur un joueur générationnel ouais. comme Kyle Pitts, par exemple, l'année dernière. Vrai, ouais. Non, mais c'est vrai que voilà, j'avais un petit peu envie de mettre Kyle Hamilton, le safety, en me disant il est tellement bon. Et Détroit, de toute façon, a besoin de temps pour se construire. Donc, ils peuvent très bien investir un deuxième choix sur un safety. Mais la logique veut que, encore une fois, valeur de la position, pass rusher, Thibodeau. Moi, je suis un peu comme toi. Je ne comprends pas le désamour Thibodeau médiatique en ce moment. Je pense que ça va revenir dans l'ordre une fois que.
Oui, mais, c'est très particulier parce que tu es hyper polarisant. C'est-à-dire que je faisais partie de ceux qui calmaient un peu le jeu parce que je trouvais qu'on en faisait des tonnes et des tonnes alors qu'il avait un profil, enfin dans un premier temps en tout cas, alors qu'il avait ce profil très, très en dilettante, notamment dans sa production de college football, même si encore une fois, il y a aussi beaucoup d'impondérables, sa blessure, son utilisation globale, etc. Et c'est vrai que. Là, on est passé sur un extrême inverse où il est un peu descendu en flèche, en qui est vraiment de raison particulièrement flagrante. Quoi.
C'est toujours formidable de voir que les mecs se défoncent pendant 4 ans sur un terrain, suffisant pour être numéro 2, projeté numéro 2 de la draft. Et puis, bon, bah, comme il faut un peu vendre des papiers, comme il faut donner des alternatives et pas toujours faire le même podcast. Là, d'un coup, tu as une vague de tous les journalistes américains qui vont dire « Non, mais en fait, il faut prendre lui. » Puis deux semaines après, « Non, mais en fait, il faut prendre lui. » Bon, je pense que voilà, les mecs ont besoin de vendre des papiers. C'est leur métier. Ils doivent faire une mock toutes les semaines. Bon, mais si on veut remettre un peu l'église au milieu du village, Thibodeau en deux, pour moi, c'est oui.
On est globalement d'accord là-dessus. En effet, je te rejoins, Kyle Hamilton, ça aurait pu être une possibilité. Deux, ça fait un peu haut pour un safety, en effet. Mais c'est vrai que sur la position de safety qui est un peu terne en ce moment, c'est pas un choix qui me ferait tomber de ma chaise. Le deuxième choix, qui sera donc le 32e pour les Lions, ça arrive à dépendre de beaucoup de paramètres. Je n'ai pas pu... C'est toi qui as le lead, vu que j'ai fait le premier choix consacré à Kayvon Thibodeau. Je vous laisse la main, monsieur Roulier, veuillez bien m'excuser.
Alors, il y a des besoins en linebacker. Il y a des besoins en safety. Et bah, du coup... On va prendre un joueur hybride.
Tout à fait.
On va prendre Jalen Pitre de Baylor.
Très bon choix.
Qui, pour le coup, aujourd'hui, j'imagine plus en safety, slot cornerback qu'en linebacker pur, hein, qu'on soit clair. Donc, Jalen Pitre, pour moi, c'est vraiment le joueur. Il a montré cette année, il a vraiment explosé avec Baylor. Et il a continué durant le Senior Bowl, il a continué à toujours montrer que bah, il est très fort. Quoi. À chaque fois qu'on lui demande de participer et d'affronter des mecs qui sont censés être ce qui se fait de mieux, bah, il arrive à tenir le défi physique. C'est un strong safety, mais encore une fois, un strong safety qui a pour moi des vraies capacités de couverture, pas un joueur de boîte qui est incapable de sortir de la boîte. D'ailleurs, à Baylor, il a joué quasiment plus de snaps en tant que slot qu'en tant que safety réel. Donc voilà, c'est un joueur. Après, il faut voir comment ils vont évoluer défensivement, s'ils vont faire du cover 3 à outrance ou pas. Ça jouera peut-être dans la décision sur le safety à prendre, parce qu'on a beaucoup de safety qui ont des caractéristiques très différentes les uns des autres. Donc, le schéma va beaucoup jouer. Mais clairement, moi, pour moi, c'est un playmaker. Il a une vision de jeu, il a la vitesse. C'est un vrai bon joueur qui a le potentiel pour être titulaire pendant 10 ans en NFL sans aucun problème.
Donc, je vais reprendre là où je m'étais arrêté. J'entends parfaitement ton choix. J'aime beaucoup Jalen Pitre. La priorité pour moi, fin de premier tour, ce sera un quarterback. Très clairement, je pense que Jared Goff, en effet, a montré du mieux, notamment quand Dan Campbell a repris un petit peu le cahier de jeu en fin de saison. Visiblement, la promotion, je crois que c'est Brian Johnson, j'ai un doute sur le prénom, mais en tout cas, je crois que c'est lui, l'ancien coach de Tyden, qui a repris la main pour reprendre le cahier de jeu. Mais je ne sais pas trop ce que c'est susceptible de donner. Après, on se doutait que Jared Goff n'était pas forcément une solution à long terme lors de son arrivée à Détroit. Je ne serais pas étonné qu'on soit sur une même logique que par exemple San Francisco l'année dernière, où on va peut-être couver un jeune QB derrière Jared Goff pour éventuellement derrière reprendre les rênes de l'équipe. À la fin du premier tour, il y a toujours un petit débat, parce qu'a priori, il y a deux quarterbacks qui ont l'air de tenir la corde. Un troisième, manifestement, en embuscade derrière, c'est un petit peu plus incertain. Je ne sais pas si vraiment sur le papier, ils vont en premier tour. Je vois bien les Lions partir avec ce choix-là sur Sam Howell, quarterback de North Carolina. Dan Campbell vient de New Orleans, a déjà eu un quarterback un peu, entre guillemets, un peu petit et très axé sur du jeu vertical avec Drew Brees. Alors là, encore une fois, le but du jeu, ce n'est pas de dire que Sam Howell sera Drew Brees en NFL, mais en tout cas, il y a des armes qui peuvent apparaître relativement similaires, une mobilité, je pense, un peu plus importante encore que ce que pouvait avoir Drew Brees à l'époque. Donc, bien entendu, il y a les fameuses pertes de balles qui vont être à gommer du côté de Sam Howell. Il y a quelques matchs, en effet, qui interrogent. Ça a beaucoup été un joueur à réaction, plus qu'un joueur vraiment rassurant globalement. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où on l'a vu, c'est où il a un pic d'adrénaline, ou alors il peut carrément s'éteindre sur un match. Pour ceux qui s'en rappellent, le fameux match d'ouverture à Virginia Tech où vraiment North Carolina et Sam Howell notamment, l'attaque avait été muselée de bout en bout. Et c'est aussi ce qu'avait joué déjà dans la chute libre de la côte de Sam Howell en 2021. Donc voilà, c'est un joueur dont on sait qu'a priori, il n'est pas forcément NFL ready tout de suite. Il a déjà un bon pédigré en college football, mais il lui manque encore un peu cette carrure, ou en tout cas ce mental encore. Il y a encore les fameuses comparaisons avec Baker Mayfield qui ressortent. Hein. C'est encore plus criant aujourd'hui vu qu'on voit la situation de Baker Mayfield. Mais voilà, donc je vous dis, un an derrière un quarterback titulaire, ce n'est pas forcément déconnant.
Alors, laisse-moi te poser juste une question, juste pour voir par rapport à tes projections. Si jamais Corral et Owen sont disponibles, tu prends Owen.
Je pense que Corral ne sera pas disponible. S'il y a le choix entre un des deux, ce sera Corral, je pense.
D'accord, non, mais c'est
pour les mêmes raisons. Parce qu'on
prévoit Corral pas disponible, donc t'es comme moi. Donc oui,
tout à fait. Ouais. Mais après, en soi, je pense que Corral et Howell, le gabarit n'est pas si différent que ça. Il y a une mobilité qui est globalement différente, qui est globalement similaire. Pardon, même si on va pas le répéter, c'est pas juste une blessure qui va tout conditionner du côté de Matt Corral, mais on ne connaît pas les conséquences de sa blessure à la jambe la saison passée. En tout cas, je pense que ça peut freiner certains scouts, mais voilà, je pense que cette mobilité, il l'aura quand même. Voilà. Après, c'est plus dans la manière de jouer. Je pense qu'on laissait un peu plus les clés à. Je dirais pas qu'on laissait plus les clés à Sam Howell, mais on était peut-être plus sur du jeu vertical, alors que du côté de Matt Corral, on était peut-être plus sur du jeu un peu option, up tempo. Enfin, c'était vraiment des styles très particuliers. ça peut correspondre à ce que veut mettre en place Dan Campbell à Détroit, hein, mais en tout cas, je trouve que Sam Howell a, dans la configuration où Corral ne serait plus disponible, peut-être plus les clés, par exemple, qu'un Desmond Ridder ou un Carson Strong, qui ont, si on va chercher un petit peu plus loin. Même question, si c'est Howell ou Willis, moi, je partirais plutôt sur Howell à Détroit.
Ah non, moi, de toute façon, Willis, j'y touche pas. Hein.
Mais j'aime bien, ouais. Willis, j'aime bien Willis, pourtant.
Pas moi. Pas mais moi, ouais. Moi, j'y touche pas à Willis, hein, qu'on soit clair. Hein. C'est... Non.
Très bien. Du coup, tu veux donner ton sleeper pour commencer ?
Allez, je vais donner mon sleeper. Donc, encore une fois, je l'ai dit, on est dans une équipe qui a un besoin en défense. Et pourtant, j'ai décidé d'aller un peu différemment et de me dire, il y a Swift qui est très bien, mais pour le compléter, parce que je pense que Swift n'est pas un coureur qui peut vraiment assurer trois tentatives, je me dis, ça serait pas mal d'avoir un joueur rapide qui puisse compléter ce comité, en fait, un joueur qui puisse être une sorte de double lame avec DeAndre Swift, même si ces deux profils qui vont être un peu similaires et certains voudront peut-être un joueur plus puissant. Mais je pars sur Pierre Strong de South Dakota State, mm-hmm. Si je ne me trompe pas, parce qu'il y a tellement d'équipes du Dakota que parfois on a peur de se tromper. Ouais. Mais donc voilà, c'est un joueur que je trouve intéressant. C'est typiquement le genre de running back qui va tomber au 5e, 6e tour parce que ce n'est pas flashy, parce que... deuxième division universitaire, parce que schéma qui ne permettait pas de mettre ultra en valeur. Et pourtant, il peut produire en NFL. J'y crois vraiment. Donc, voilà, au 5e, 6e tour, ça peut être pas mal.
Très bien, ça s'entend. Alors, attends, je revérifie juste les choix qu'ils avaient. Mais alors, c'est difficile dans cette classe-là. Ah, c'est vrai qu'ils n'ont pas de 4e tour, ça peut être problématique. C'est difficile dans cette classe-là de ne pas partir sur un receveur. Tu peux avoir tellement de bonnes affaires aux alentours du 5e, 6e, que je me dis, OK, bon, derrière, éventuellement, Josh Reynolds, Kyle Fredmond, ça a été re-signé. C'est pas trop mal en termes de rotation, mais je pense que tu as quand même moyen d'essayer de trouver des profils intéressants. Alors, attention, hein, moi, il est beaucoup plus haut dans mon esprit. Moi, c'est un cœur avec les doigts, mais je pense qu'il descendra un petit peu plus bas. On peut tenter un Samuel Touré du côté de Détroit. Ça va être mon deuxième sleeper de Nebraska, donc c'est bien. Receveur des Cornhuskers, Samuel Touré. On a déjà de la taille avec DJ Shark, qui en plus peut apporter sur le domaine un peu vertical. On peut avoir un peu plus de possession avec Amon-Ra St. Brown. Je pense que Samori Touré, il a montré qu'il était capable de faire beaucoup, beaucoup de choses, d'apporter dans un côté très explosif du côté de Montana quand il était en deuxième division universitaire, d'être un peu plus dans de la possession du jeu intermédiaire du côté de Nebraska. Mais c'est un joueur qui, je pense, peut apprendre assez vite et qui peut avoir en effet un panel assez large de par sa taille et de par sa vitesse qui, certes, sans être bluffante, et pas non plus négligeable. Voilà, c'est un joueur qui, je pense, peut être un très bon à terme receveur numéro 2-3 pour éventuellement tourner. Ce ne sera pas un receveur numéro 1, entendons-nous bien. Mais en tout cas, voilà, vu les projections qui commencent à tomber le concernant, je me dis qu'un 5e tour, par exemple, investi sur Samori Touré, je pense que ce ne serait pas déconnant quand tu vois, par exemple, qu'un Amon-Ra St. Brown a été une bonne opération en 4e tour. Pourquoi pas tenter un deuxième pari deux années de suite du côté du poste de receveur.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est un joueur, on a été étonné. Hein. Je me souviens qu'on en a parlé, toi et moi, on était assez étonné de voir si bas dans les mocks. Je crois que c'est au Shrine Bowl où il a brillé.
Il me semble aussi, ouais. Je ne vais pas dire de bêtises, mais avec tous les bowls qui ont lieu…
Je crois que c'était le Shrine. Je ne pense pas que ce soit de NFL PA où il avait marqué notamment de touchdown, je crois. Donc oui, moi ça me va très bien comme choix et je comprends la logique.
Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Lions de Détroit, donc deuxième choix de la draft. On se retrouve donc dès demain pour parler du troisième choix qui concernera les Houston Texans. Merci Victor, toute l'actualité de la NFL c'est sur touchdownactu.com. Salut à tous.
The Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.